محاسن كبمن يا الدر المالك تمن والله نور عين نور زمن وما شفنا في طول الزمن صور بدر وداخل كمن والله نور عين نور زمن الأنوار يتزاحمن تبسمن والله نور علي ونور زمن أجز محاسنك بمن يدر المالك تمن والله نور علي ونور زمن دي الدنيا مجنة عدن شفنا ملاك لابس بدن والله نور علي ونور الزمن نسلك مفردا حاز النور حاز اللدن وغصن مهفهف أمدا هيبة أسد في عيون شدا والله نور علي ونور الزمن أكيس محاسنك بمن
Et eh bien voilà, ce soir, il y a du courant et donc nous sommes là de retour.
Oui, enfin, ça fait quand même deux émissions qui sautent. Hein.
Oui, effectivement, ça commence à bien faire. C'est ça, faut le dire, comme en principe tous les mercredis de 20 à 22 heures, sur Radio Air Libre.
Et pourtant, nous étions là. Hein.
Et oui, 87.7 FM, téléphone 02 344 58 55. Et nous avons un email. Ça faut le dire, sans accent, en un mot. Donc, ça faut, elle comme elle, et dire comme dire, en un mot, ça faut le dire. @bust.com. Donc, voilà. Si vous voulez nous écrire.
Et alors, en plus, on peut déjà, sous le sceau de la confidence, vous dire que nous serons même présentes sur un site bientôt.
Effectivement, peut-être dès demain, l'émission sur Internet. Mais ça, on en reparlera la semaine prochaine.
Alors, aujourd'hui, cette semaine, nous sommes sans Anne, qui s'est défilée. Alors,
elle a d'autres obligations.
Oui, puis elle a une mauvaise toux. Alors, on lui souhaite du bon repos et à la semaine prochaine. Alors moi, je vais vous parler d'un bouquin qui s'appelle « Je ne suis pas une fille à papa ». Et pour cause, je suis une fille à deux mamans. Comme on vient de clôturer les jeux, ben, 2-3 dépêches AFP sur les jeux. Et puis un bouquin qui s'appelle « Sport et virilisme » et qui défrise. Je vais essayer de vous faire en live une traduction, puisque j'ai trouvé un agenda chez Artemis des Galeries Bortier. Un agenda woman. Et chaque semaine, il y a une femme en photo avec une petite biographie. Et donc, je comptais faire un peu ma rubrique historique comme ça, puisque vous l'avez remarqué, je vous ai un peu lâché à ce niveau-là. Et puis, comme d'habitude, d'abondantes dépêches AFP sur la situation des femmes autour du monde et notamment des lesbiennes.
Je meurs d'impatience.
Et puis donc, nous allons avoir en deuxième partie d'émission le reportage de notre envoyé spécial Outre-Manche.
C'est-à-dire que oui, vers 21h, je vais vous diffuser les enregistrements que j'ai faits dans mes pérégrinations au Wheat Camp, le camp Women in Tune, au Pays de Galles.
Oui.
Voilà.
Eh bien, on va s'écouter...
Lerita Mitsuko.
Ah, alors c'est une chanson sur l'amour. Okay.
Mais quoi ?
Je disais qu'on pouvait se transposer, n'est pas forcément de voir ça, de voir... Parce qu'elle parle du prince charmant, mais il paraît que la princesse charmante, c'est très bien.
Ok, c'est parti.
fait tout au long des années. Responsable du feu qu'on a allumé. Dans la cime ou dans l'abîme, c'est nous-mêmes. Quel briquet pour savoir rester aux aguets. Car on change pas de prince quand on change de canapé. On change pas de prince quand on change de canapé.
J'ai deux mamans. Voilà ce que je réponds aux gens que je ne connais pas et qui me demandent qui je suis. Je le dis pas pour crâner, juste parce que c'est la vérité et que je n'aime pas trop qu'on me pose des questions. Aussi, c'est vrai, peut-être un peu pour crâner. Alors, c'est comme ça que commence ce livre qui s'appelle donc « Je ne suis pas une fille à papa » qui est écrit par Christophe Honoré, qui est en fait une tranche de vie de la petite Lucie qui a deux mamans, maman Delphine et maman Solange, et qui va approcher ses 7 ans. Et donc, pour ses 7 ans, ses mamans lui ont promis de lui dire, et aussi parce que c'était important pour elle, qui était la vraie maman, la maman biologique. Et donc, Lucie a décidé qu'elle voulait pas le savoir et qu'elle voulait pas faire de différence entre les deux. Donc, il va y avoir une petite péripétie qui nous permet aussi de voir un peu comment, qu'est-ce qui peut se passer dans une tête d'enfant, qu'est-ce qu'elle peut être amenée à faire, quel plan elle peut fomenter avec ses potes, puisque bon, il y a des instants dramatiques. Mais tout est bien, qui finit bien. Voilà, alors c'est aux éditions Thierry Magnier, je ne sais pas, et la collection roman. Niveau de lecture CE-CM, donc c'est aussi écrit pour des enfants. C'est un petit bouquin qui fait quand même 73 pages, mais qui est tout fin et qui est écrit très gros avec des illustrations. Donc je vous invite à aller voir dans cette collection, chez cet éditeur, s'il n'y a pas autre chose, et à nous le dire, et à nous téléphoner pour nous le dire, ou nous écrire pour nous le dire. Dites-nous que vous existez.
Oui, c'est vrai qu'on a besoin de retour.
Alors, sinon, un petit peu de copinage. Je vais vous parler des archives gays et lesbiennes de Moscou qui ont besoin de soutien. Les archives gays et lesbiennes de Moscou, un lieu vital d'information, de rencontres et de discussions dans un pays où l'homosexualité et donc le lesbianisme étaient réprimés jusqu'en 1993, au mieux totalement passés sous silence. Créées en 1993, donc fréquentées en majorité par des lesbiennes, les archives sont ouvertes à toute personne intéressée. Le fonds comprend des livres et des revues lesbiennes et gays de Russie et des pays de l'ex-Union soviétique, ainsi que des livres des périodiques étrangers offerts. Le manque de ressources financières et la cherté des loyers ont obligé les archives à fermer pendant 2 ans. À force d'obstination, elles existent à nouveau, donc depuis 1996, et sont devenues un lieu vivant, actif, militant et créatif. Donc il y a 2 revues qui sont éditées là-bas, Sopha Sappho et Organitchekaya Lady, que j'imagine ça veut dire femme organisée. Mais leur avenir est gravement menacé par la crise actuelle. 40% de la population vit actuellement en dessous du seuil de la pauvreté, ça j'imagine. Et le financement du loyer dépend entièrement des dons privés. Donc votre soutien, même modeste, est le bienvenu. Et donc vous pouvez envoyer votre soutien à la librairie Les Mots à la Bouche, 7 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, mon Dieu. 7 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, donc breton, dans le 4, donc 75 004 Paris. C'est vrai que les archives, c'est un petit peu maintenir l'existence de gens, ne faire que même si au moment où elles ont existé, Ces personnes n'ont pas forcément été très connues, mais en tout cas, les gens qui ont les traces de leur passage peuvent montrer que dès ce moment-là, il y avait notamment donc des gays et des lesbiennes actifs, militants, notamment pour le droit d'exister tout simplement. C'est aussi une façon de contrer la chape de silence qui nous est imposée. C'est aussi une façon de contrer l'histoire dominante, l'idéologie dominante qui nous impose une histoire qui n'est pas la nôtre. Actuellement, dans les écoles, on apprend surtout l'histoire des puissants, des riches, des guerres, des fins stratèges politiques qui décident du sort du monde à trois dans un bureau. Il reste que l'ensemble de la population vit une existence qui est bien différente et qui n'est pas négligeable, puisque c'est quand même justement là la vie de l'essentiel de la population. C'est aussi une façon de montrer que de tout temps, il a existé des femmes combatives, des personnes homosexuelles combatives aussi. Et puis, il ne faut pas se laisser justement avoir par cette impression qu'on est la première et que c'est toujours l'année zéro d'une lutte. Les luttes des femmes sont très très anciennes, les luttes des homosexuels pour pouvoir exister et apparaître le sont aussi. Donc il est d'autant plus important, notamment dans un pays où on pouvait encore moins qu'ailleurs vivre en tant qu'homosexuel, qu'il est très important que ces archives se maintiennent et se sentent soutenues, même si c'est une lettre pour dire courage, on est avec vous. Bon, c'est sûr qu'ils ont besoin d'argent, mais il y a quand même le soutien d'une lettre, c'est quand même quelque chose d'assez important. Mmh. On se sent tout de suite moins seul et puis c'est une preuve matérielle. Mmh. Voilà, donc je le refais. Librairie ouais, Les Mots à la Bouche, 7 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, 75004 Paris. Voilà.
Ok.
Et donc, il faut préciser Archives Moscou, bien entendu. Alors, la marche mondiale, puisque vous le savez maintenant, dans 15 jours, c'est à nos portes. 15 jours, dix jours. Le 4. Alors, j'ai choisi de faire un retour en arrière avec un texte qui a été écrit par quelqu'un qui a participé à la marche des femmes qui a fait étape à Paris. Donc, elle titre « L'ennemi principal, on ne s'en lasse pas ». L'ennemi principal est en fait le titre d'un texte fondateur de l'histoire du féminisme et du mouvement lesbien écrit par Christine Elfi dans les années 70. C'est un des premiers textes qui analyse le patriarcat en tant que système. Et donc il s'agit de cet ennemi-là, c'est celui-là, l'ennemi principal, le patriarcat. De 30 ans plus tard,
c'est toujours d'actualité.
C'est toujours d'actualité. Samedi 17 juin, la marche des femmes faisait étape à Paris. Que titrait l'Humanité ce samedi ? Marche mondiale des femmes, 143 pays s'organisent en réseau contre la mondialisation. Contre quoi ? Contre la mondialisation. Bien sûr, ce sont les investisseurs institutionnels qui sont responsables de l'oppression des femmes. Bien sûr, ce sont les spéculateurs qui violent les femmes, qui les suivent le soir dans les rues, qui les battent dans leur foyer, qui pratiquent l'excision sur les petites filles. Ce sont les méchants publicitaires des multinationales qui achètent aux filles le kit de la parfaite ménagère à Noël, qui offrent des mixeurs pour la fête des mères. Ce sont les fourbes de technocrates européens qui poussent les garçons à faire des études plus longues et plus valorisées, qui se moquent des petits mâles quand ils pleurent comme des petites filles. Ce sont les destructeurs de la forêt amazonienne et les pollueurs des mers qui sont responsables de la préhistorique répartition des tâches dans les foyers. 80% de ces tâches sont réalisées par les femmes. Ce sont ces traîtres de gouvernements sociaux-démocrates qui sont responsables de la prise de parole méprisée et étouffée des femmes dans tout ce qui existe de partis, d'organisations et d'associations. Bien sûr, les femmes, nous n'avions pas encore compris cela, maintenant c'est fait. Alors, du cœur à l'ouvrage pour la cause, tout à Millau, tout à Seattle, toutes contre Total Fina, toutes contre le MEDEF, et un monde meilleur s'ouvrira à nous, mes sœurs. Pourtant, samedi, l'avant-goût du monde meilleur était amer. Des militants antifascistes hurlaient « Police nationale, milice du capital », sans voir que l'on leur comportement, violence de l'attitude, fonctionnement de bande, et le résultat d'une socialisation sexuée différenciée garante, plus que la police nationale des rapports de domination. Le collège kurde portait haut le portrait du leader emprisonné sans se soucier du voile revêtu par les femmes présentes dans ses rangs. Les militants d'extrême gauche chantaient l'international sans savoir sans doute que les leaders historiques marxistes et trotskistes n'ont jamais été moins sexistes que les autres dans leur vie privée et même publique. Les syndicats criaient des slogans hostiles aux PAR, donc c'est toujours une référence française à une mesure pour les minimexés, et au travail précaire, sans voir que le temps partiel imposé aux femmes ne l'est que parce que la répartition des tâches est inégalitaire dans les foyers. Enfin, des néo-ruraux vituperaient devant le McDo, plus préoccupés par le contenu de leurs assiettes que par le sexe de l'individu qui les prépare. La fin de la journée montra clairement la légitimité des attitudes décrites ici. Tandis qu'une madame joviale, installée sur la scène pour le concert de clôture, s'illusionnait en chantant « Vive les femmes, nous sommes belles, nous avons pris la Bastille, waouh !» La police rouvrait la place à la circulation pour ne plus laisser aux manifestantes qu'un petit carré face à l'estrade. Aucun des contestataires présents ne s'en émut, et l'on put alors se réjouir du succès de cette journée, tandis que les voitures conduites par des mâles rageurs traversaient ce lieu, klaxon hurlant, tandis que rue de la Roquette, les filles se faisaient passer des mains au cul dans les bars, que les militants étaient rentrés se mettre les pieds sous la table, que les préfets et les autorités avaient même oublié qu'une manifestation venait d'avoir lieu, et que, sans aucun doute, en Afghanistan, une femme était lapidée en place publique. Donc, je vous invite à vous rendre à 11h au rond-point Schumann. Si vous êtes en retard, vous pourrez nous rejoindre. De toute façon, Vie Féminine a tellement bien négocié le parcours qu'on tourne en rond entre la place Schumann et le parc du Cinquantenaire, donc vous n'aurez pas de mal à nous trouver.
C'est le samedi 14 octobre.
Samedi 14 octobre, en dessous de cet endroit qui est surmonté par un char guerrier et qui, dessous, a le musée de l'armée et une mosquée. Ouais. Donc, c'est au niveau des femmes afghanes, je pense que c'est quand même assez bien vu. Voilà.
Ok. On va écouter quelque chose qui n'a absolument rien à voir. C'est une rappeuse anglo-saxonne. Avant ça, je dis le titre parce que je ne sais pas si on l'a dit, de la chanson d'Erita Mitsuko. Non. Ça s'appelle « Chère petite ». Et maintenant, on va écouter Jill Scott. Donc, c'est une rappeuse américaine. Et le titre de son morceau, c'est « Brother ».
To cut we, you wanna tear it down, but you can't touch we ain't invincible, but Lord knows we are beautiful and blessed.
Check the affirmative.
Oh yeah. Brother's keeper, yes I am. So many times you try to burn we, you wanna break we down.
Use our disguise.
We ain't invincible, but Lord knows we're magnificent and blessed.
Check for the
fabulous, brilliantly blessed in every way.
On fera l'impasse sur le texte qui est assez quelconque, banal et, disons-le, un peu réactionnaire.
Bouh. Bon, alors, la prochaine fois, je traduirai avant de venir, promis. Bon, cette fois-ci, je vous le fais en direct.
Yes.
Donc, il s'agit d'une femme qui s'appelle Halide Adivar, une Turque qui est née en 83 et qui... qui est née en 1883 et qui est morte en 1964.
Oh, c'est bien, elle s'internationalise, parce que moi, jusque-là, je n'ai jamais acheté ce truc-là parce que c'était très, très américain. Mais c'est bien.
Non, oui, ça change. Celle de la semaine prochaine est italienne, je vous mets l'eau à la bouche.
Super.
Et donc, elle est présentée comme activiste politique et écrivaine. Donc, ça commence par une citation de ses mémoires. « Un pays appartient plus à ses femmes qu'à ses hommes ». Parce que c'est elle en fait qui ressentent plus instinctivement le danger pour leurs habitations, quand bien même elles ne sont pas en position d'avoir une connaissance des raisons compliquées et politiques qui font que qui mènent les hommes de tous les pays à la guerre. Donc elle a été caporale dans l'armée turque pendant la guerre d'indépendance turque. Apparemment, comme toute auxiliaire féminine, elle s'est beaucoup vue attribuer des travaux d'écriture et de traduction. Elle s'est elle-même exilée pendant le règne d'Atatürk. Toutes ces diverses raisons font que, pour autant, elle doit certainement avoir une bonne connaissance de cette dite complexité de la politique. Elle a contribué à faire émerger une opposition importante en parlant, en donnant des conférences en dehors de son pays musulman sur l'émancipation des femmes et a plaidé particulièrement pour l'éducation des femmes. Donc c'est encore et toujours tout à fait d'actualité. Donc elle est assez connue en tant qu'écrivaine d'articles, de nouvelles, et de ses mémoires. Elle a été aussi professeure à l'université d'Istanbul après 1938. Elle fait partie quand même des nationalistes turcs. C'est assez difficile hein, parce que c'est un peu comme beaucoup de personnes immigrées aujourd'hui qu'on sent finalement très nationaliste, alors que nous on a tendance un peu à se démarquer des nationalistes, mais bon, c'est sûr que quand on est opprimé en fonction de son identité, de son pays d'origine, c'est quand même assez difficile de pas développer ce nationalisme en retour. Bon, je cherche à l'expliquer, bah forcément à l'excuser. Hein. Mmh. Et donc, elle a été la seule femme élue de son pays à partir de 1912. Et de 1950 à 1954, elle a été, j'imagine que c'est l'équivalent de députée sénateur, membre de la Grande Assemblée nationale. Voilà donc pour Halide Adivar, qui d'ailleurs, ma foi, fort digne sur sa photo. Et oui, vous ratez encore quelque chose.
Super. Si vous voulez voir sa photo, il faut aller chez Artemis acheter l'agenda de cette année de Women Who Dare, les femmes qui osent.
Alors, je vais enchaîner sur Sydney.
Oui.
Alors, comme vous l'avez dit, ils ont fait très fort puisque les cinq dernières porteuses de flammes étaient donc des porteuses. Et bon, on bisquera sur le côté commercial, la pourriture du dopage et tout ce genre de choses une prochaine fois. Nous allons nous intéresser aujourd'hui uniquement à la participation des femmes. Pas tout faire d'un coup.
Puis de temps en temps, il faut se faire plaisir.
Donc, ce sont des hommes qui ont organisé les Jeux Olympiques de Sydney, mais ce sont des femmes connues et inconnues qui ont créé l'événement et raflé une quantité de médailles sans précédent, dont beaucoup avaient une haute valeur symbolique, comme celle de Cathy Freeman. Donc, le Comité international olympique compte actuellement 12 femmes sur 113 membres, mais visiblement, en tout cas, c'est un comité sensibilisé puisque cette présence est en train de suivre une courbe exponentielle. En 76, pour les Jeux de Montréal, il y avait seulement 49 épreuves féminines sur un total de 198. À Sydney, seulement 2 sports sur 28 sont encore réservés aux hommes, la lutte et la boxe. Bon, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas forcément envie de leur disputer ce genre de sport. Le défilé des 10 000 athlètes à la cérémonie d'ouverture a été le plus mixte de l'histoire olympique puisque sur seulement 12 délégations, encore 12 délégations sur 200 étaient exclusivement masculines contre 26 sur 196 à Atlanta. Donc c'est un petit peu, ça a presque diminué de la moitié encore.
Mais il y a eu l'effet d'une règle d'exclusion de certains pays, non ?
Oui, notamment l'Afghanistan, oui. Qui n'a pas du tout participé. Et la cérémonie d'ouverture elle-même était destinée à marquer le 100e anniversaire de la participation des femmes aux Jeux Olympiques. Et ils avaient fait revenir une femme australienne de 95 ans qui avait participé aux Jeux d'Amsterdam de 1928.
Waouh !
Alors on va faire un peu le tour des médaillés. Donc Cathy Freeman qui représentait à la fois les femmes et les
aborigènes.
Les aborigènes. Oui, donc alors les premières, on en avait parlé, hein, c'était le tir à la carabine et le triathlon. Ensuite, une haltérophile colombienne, Maria Isabel Urrutia, première médaille d'or de la Colombie, remportée par une femme. Mm-hmm. Donc Cathy Freeman, la 100e médaille d'or de l'histoire, donc elle, c'était sur le 400 mètres. Maria Mutola pour le Mozambique sur 800 mètres. Yes. L'Algérienne Nouria Merah-Benida, le 1500 mètres.
Elle a gagné ?
Oui.
Génial. Tu sais que c'est cette femme qui a été très maltraitée par l'Algérie. En fait, c'est elle qui a apporté la première médaille d'or de l'histoire de l'Algérie. Bon, et elle ne vit plus en Algérie parce qu'elle a été très, très maltraitée. Mmh. Il y a eu plein de discours des intégristes scandalisés sur le fait qu'apparemment ils sont encore blabla. Mmh. Et j'ai vu un reportage sur elle. En fait, elle s'entraînait en Russie parce qu'elle voulait faire ça pour elle. Quoi, elle était très amère. Et je suis très heureuse qu'elle soit parvenue.
Mais apparemment, il est en train de se produire la même chose pour une athlète indienne qui peut-être un peu. Qui est plus soutenue parce qu'elle est rentrée en Inde et elle a publiquement accusé le ministre des Sports de harcèlement sexuel.
Très bien.
Vas-y. Et donc le CIO avait invité une petite fille de 12 ans, une petite Fatima qui représentait symboliquement le Bahreïn pour 50 mètres nage libre. C'était un pied de nez voulu au fondamentalisme et autres talibans.
Extra.
Elisabetta Lipa, rameuse roumaine, quatrième fois qu'elle a remporté une médaille d'or. Une plongeuse chinoise, Fu Mingxia. Le water polo a fait son apparition alors que les hommes jouent au water polo depuis un siècle. Mm-hmm. Apparition du softball féminin, l'équivalent du baseball. Oui, beaucoup de succès de la finale de foot féminin.
Oui, la Norvège a battu les États-Unis, c'est un événement. Les États-Unis dominent quand même assez bien le foot, et voilà, c'est une nation européenne qui a gagné.
Et c'est marrant parce que, apparemment, aux États-Unis, le football féminin, c'est vraiment un sport très populaire.
Oui, absolument. Depuis le mondial mondial des femmes qui s'est passé.
Aux Pays-Bas ?
Non, aux États-Unis, il y a 2 ans, et les Américaines ont gagné. Effectivement, ça a été un événement incroyable. Elles ont rempli des stades. Tout le pays était derrière elles. Et j'ai déjà raconté, mais je ne me lasse pas de la raconter. À l'époque, il y avait une pub pour une boisson énergétique avec. Je crois que c'est pas Michael Johnson, l'autre, celui de l'équipe de basket là,
Jordan,
Michael Jordan. Et donc ça met en scène Maya Hamm qui est l'avant-centre de l'équipe de foot des États-Unis et Michael Jordan, et c'est un combat en fait de basket. C'est un combat de tout. Il se mesure dans différents domaines du sport, et le slogan c'est tout ce que tu peux faire, je peux le faire. Et je me demande même si c'est pas mieux que toi. Bon, je trouve que c'est un peu exagéré ça, parce que c'est pas le but, mais bon. Et l'anecdote c'est que une petite fille qui fait du foot le dimanche, une petite fille de 10 ans a vu cette pub avec son papa, et puis elle lui a dit « Papa, c'est qui le monsieur à côté de Mia ?»
Ouais.
Voilà.
Oui, et donc 3/4 des athlètes dopés étaient des hommes. Bon, alors évidemment, il y a eu les divers divas, Marie-Josée Perec, Little Marion, tout ça. Cathy Freeman. Et donc, le journaliste de l'AFP a fait comme une grosse boulette, puisqu'il y a quand même une phrase où il dit « Comme elles ont toujours aimé les bijoux, elles aiment ramener des médailles. » On lui pardonne.
Ça, c'est le naturel.
Il finit en disant « La femme est bien l'avenir de l'olympisme. »
Dernière anecdote, sur Arte, il y a eu une émission là-dessus, les femmes dans le sport. Ils parlaient de comment les femmes, les athlètes, en fait, qui ont en général des corps assez bien sculptés par le sport, sont réutilisées par le monde de la mode et de la pub, parce qu'elles font vendre. Quels commentateurs sportifs sont-ils allés chercher chez Arte pour commenter cette histoire? Je vous le donne en mille, le rédac-chef de L'Équipe. Il n'y a pas plus macho comme magazine sportif, mais bon, voilà. Ils faisaient de son mieux. Hein, mais
et donc,
bon.
Tout ça pour revenir, parce que, à vrai dire, je ne sais plus si je vous en ai parlé ou pas. Donc, ce livre qui s'appelle Sport et virilisme, où on voit d'ailleurs deux mecs en short en train de se tenir les couilles.
Je crois que tu l'as annoncé, mais tu n'en as pas parlé.
Et donc, écrit par Frédéric Baillet et Philippe Lyotard. Et notamment avec la collaboration de Marie-Victoire Louis, qui est la présidente de l'AVFT, l'Association des violences faites aux femmes au travail, une association française, mais dont on peut utilement exporter les travaux, et qui reviennent page après page sur le corps sportif ou le devenir mâle. Et donc, ils montrent les divers violences sexuelles, tous les problèmes de harcèlement sexuel qu'il peut y avoir, et notamment nous on avait été assez écœurés parce que dans les pages sport du Monde, il y avait le journaliste qui se demandait pourquoi l'équipe de lancer féminine française ne donnait pas plus de résultats, puisque là il venait enfin d'avoir un résultat. Or dans cette fédération il y a quand même eu des choses très très graves qui se sont passées en termes de possession du corps des athlètes femmes, une pression, des pressions pour qu'elles, et puis elles l'ont fait, elles ont été obligées de le faire pour qu'elles fassent des striptease ou dansent sur les tables, dans des soi-disant fêtes pour resserrer l'unité du groupe. Des athlètes qui ont donc vraiment été très maltraités. Ça fait un petit moment que j'ai lu le bouquin, donc je sais plus exactement jusqu'où sont allées les violences sexuelles, mais en tout cas elles sont allées quand même très loin. Et donc, quand on est occupé à vivre ça, on peut difficilement briller dans le sport. Voilà.
Manifestement, le journaliste du Monde ne le savait pas. Comme tu as fait la rubrique historique, je vais passer les Famous T, qui ont une super chanson qui s'appelle Olympe de Gouges.
Oui.
Elles sont toulousaines et quelque part ça s'entend et c'est super.
Il s'agissait donc d'une chanson sur l'âme de Gouges qui a écrit les droits de la femme et de la citoyenne.
Déclaration des droits, déclaration. Oui. Peut-être, elle n'a peut-être pas mis universelle, mais des droits de la femme et de la citoyenne. Ouais.
Et donc, ça se passait pendant la Révolution française et elle a été officiellement accusée de soutien à Louis XVI. Quelle horreur. Mais on sait très bien que c'était aussi ses prises de position politique en faveur des femmes. Et elle a notamment défendu que si les femmes avaient le droit de monter à l'échafaud, elles avaient donc le droit de voter aussi. Et après, donc elle a été guillotinée. Et après son exécution, notamment Robespierre a fait fermer les clubs de femmes. Et ça a sonné le glas de la Révolution française, enfin en tout cas de son esprit. Et les hommes au pouvoir, puisque c'était vraiment là des hommes, se sont définitivement ont commencé à se couper de leur base. Alors, petit quart d'heure de dépêche AFP, ça faisait longtemps.
Allons-y.
Alors, on commence très fort avec une dépêche AFP qui nous vient de Washington. La propagation des maladies sexuellement transmissibles, MST, est mal connue par plus d'un tiers des Américains qui pensent notamment qu'il suffit d'uriner après un rapport sexuel pour les éviter. Non.
Ah, au secours. Donc, oui, mais c'est comme étude, ça qu'ils contaminent toutes leurs partenaires. Hein,
c'est une étude du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies d'Atlanta. Donc 38% des patients pensent donc uriner après avoir fait l'amour les protège. 20% estiment que prendre des contraceptifs oraux les défendent contre les maladies. 16% imaginent qu'il suffit de se nettoyer les parties génitales pour se préserver. 40% des femmes croient qu'une douche vaginale les protège des MST. Donc enquête réalisée auprès de 3500 patients, ce qui est énorme. Donc soyons clairs, les contraceptifs oraux servent à empêcher les grossesses, c'est tout. C'est déjà pas mal, mais c'est tout. Donc vous pouvez utilement, pour les hétérosexuels ou les homosexuels hommes, vous munir de préservatifs qui sont à l'heure actuelle les seuls moyens de protection contre les maladies sexuellement transmissibles, que ce soit des trucs un peu chiants.
Des mycoses.
Oui, là, genre de champignons, ou des trucs nettement plus ennuyeux et mortels, comme donc le sida.
Et les hépatites virales.
Et oui,
toutes les hépatites, enfin oui, non, oui, pas toutes, les essais, effectivement.
Chez les filles, on peut se découper des carrés de latex dans les préservatifs, mais bon, les risques chez les lesbiennes sont moindres, mais ils existent, hélas. Donc, apparemment, si on met ce petit carré...
Les mycoses, ça existe vachement, peut-être moins pour les hépatites, mais les mycoses, en plein... Digue dentaire aussi, hein, ça marche bien. Téléphoner dans un dépôt dentaire, il n'y a pas besoin de découper, c'est déjà un carré de latex et hop. C'est peut-être plus cher, ça je ne sais pas.
Voilà. Alors, ensuite, des Éthiopiens qui ont choisi de se stériliser. Donc, 256 habitants d'un patelin dans le nord-est se sont fait volontairement stériliser pour que leur famille n'ait pas à souffrir d'une situation économique et sanitaire précaire. Donc, beau travail de réflexion sur soi-même quand on sait que un des plus grands problèmes des Africaines sont donc les grossesses non désirées, voire trop précoces. Petite bonne nouvelle, cette Sénégalaise Fatoumata Konta, qui avait été retenue au Sénégal par son père, est donc revenue en France depuis le mois de juillet et elle vient d'avoir son bac.
Super.
Donc, ben, continue. J'ai pas préparé vraiment.
Il y en a des choses inintéressantes là-dedans.
Si, non, mais c'est des trucs intéressants, mais en même temps, les dépêches AFP, des fois, c'est un peu trop désespérant, puisque je prends aussi tout ce qui est viol, pédophilie, tout ça, dont je ne vous parle pas, parce qu'il y a vraiment des trucs un peu insoutenables. Donc, toujours chez les, aux États-Unis, il apparaît que républicains contre démocrates, c'est quand même les démocrates qui, notamment, ont permis l'autorisation de la pilule RU486. Donc ça, c'est la façon chimique d'avorter. Ça déclenche une fausse couche, mais ce n'est utilisé que jusqu'à la 8e semaine d'aménorrhée. Donc il faut s'y être pris et vraiment être très vigilante sur ces cycles pour y avoir droit. Notamment en ce moment en France aussi, sous la houlette des socialistes qui se sont aperçus qu'il y avait des élections bientôt, ça débat fort sur contraception et avortement, et tous les arguments électoraux sont beaux. Le Premier ministre a donc réussi à parler du droit des femmes à disposer de leur corps. Bon, c'est vrai qu'il est assez entouré puisqu'il a une maman accoucheuse et une femme qui a toujours fait foi de, enfin professé un certain féminisme. Donc j'imagine que il les a vraiment briefés quand il rentre chez lui.
Oui, elle l'entend derrière la porte.
Alors, La Haye, donc chez nos voisins néerlandais, la prostitution a donc été légalisée. Définitivement, puisque avant c'était une jurisprudence qui faisait que c'était un permis. Alors, dans l'esprit des législateurs, il s'agit de faire accéder les travailleurs et les travailleuses du sexe à, ben, par exemple, la sécurité sociale, le droit du travail,
les soins de santé.
Alors, les soins de santé. J'imagine quand une prostituée va porter plainte pour harcèlement sexuel, à mon avis, ils vont pas être en peine. Hein. Mais bon, moi, à mon avis, ça résout pas grand-chose parce que les raisons qui font qu'une femme se prostitue, je veux pas parler de prostitution forcée puisqu'à mon avis, elle n'est que forcée. Bon, toutes les prostituées se débrouillent pour que leurs enfants aient un autre choix que celui-là. Donc ça, pour moi, c'est quand même assez significatif de ce qu'elles vivent et de ce qu'elles pensent de ce qu'elles vivent.
Tout à fait. Mais oui, c'est vraiment un débat difficile hein, dans l'état actuel. J'ai l'impression que rien n'apporte de réponse. Ce type de réponse, prohibition, légalisation, ça n'apporte rien de satisfaisant. Ce qu'il faut effectivement, c'est revoir fondamentalement les rapports humains.
Oui, travailler sur le comportement. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle demande de prostitution.
Mais oui. Et en plus, pour l'instant, le porno est à la mode. Donc, bon, on est mal embarqué.
Formidable. Alors oui, au registre de la pédophilie, il y a un site de pornographie infantile qui avait été consulté plus de 500 000 fois. Donc ça a le vent en poupe et là, utilisation d'Internet qu'on peut difficilement cautionner. Alors, sinon, l'armée britannique a étudié la possibilité de permettre aux femmes de servir dans les unités de combat. Puisque elles sont déjà nommées à des postes de pilotes de chasse ou navires de guerre. Et donc, parce qu'apparemment, ce qui bloquait au niveau de l'administration, c'était le fait qu'elles étaient amenées à tuer des gens. Mais la violence des femmes, ça existe. Et les femmes qui tuent des autres, ça existe aussi. Il n'y a pas que la belle-mère, la bonne mère nourricière. Il y a aussi des femmes violentes et des femmes meurtrières. Et donc, en fait, ce ministre, Monsieur Hoon, a dit que lui, il voulait obtenir ça. Et en fait... et que c'était aux autres de montrer que non, les femmes pouvaient pas tuer. Et en fait, c'est ce même ministre qui avait aussi utilisé cette même méthode pour obtenir la levée de l'interdiction de la présence d'homosexuels dans les rangs de l'armée. En ce moment, c'est assez la mode. Jusqu'à présent, c'était les personnes discriminées qui devaient faire la preuve qu'elles étaient capables. Et là, en fait, on assiste à un renversement. Notamment, il y a une loi aussi en France qui vient d'être votée contre la discrimination sur les origines, les orientations sexuelles, le patronyme et puis je ne sais plus quoi d'autre. Et c'est donc à l'employeur de faire la preuve qu'il n'y a pas eu de discrimination. Donc c'est vrai que cette charge de la preuve est très très importante. Ouais. La pilule du lendemain, donc c'est une pilule contraceptive d'urgence qui abortive. Déclenche, oui. En fait, elle déclenche la destruction de l'endomètre. Donc on ne sait pas en fait s'il y a eu fécondation ou pas. En tout cas, les règles sont déclenchées. Donc effectivement, s'il y a eu fécondation, on peut parler de pilule abortive. D'accord. S'il n'y en a pas eu, ouais. C'est plutôt une pilule contraceptive. Cela dit, c'est vrai que le côté contraceptif aussi est un peu tiré par les cheveux, puisque ça peut absolument pas être un contraceptif habituel, puisque ça dérègle les cycles en beauté, puisque bon, c'est dans la semaine les règles arrivent. Il s'agit d'une pilule très fortement dosée dont on prend deux cachets à 24 heures d'intervalle, et il faut qu'elle soit prise moins de 72 heures après le rapport à risque. Et donc, cette pilule est arrivée en Italie, et devinez quoi, ça a provoqué la colère de l'Église catholique et des milieux conservateurs.
Non, le pape n'est pas d'accord.
Vraiment étrange.
Je ne peux pas le croire.
Décidément. Alors il y a un truc aussi très très intéressant, le Vatican a déclaré que la pédophilie était un crime contre l'humanité. Donc, ils sont toujours en avance.
On peut vraiment faire un bêtisier de la semaine avec le Vatican. Hein.
Oui, c'est surtout énorme. Qu'en France, il y a en ce moment un procès qui s'est ouvert d'un abbé qui a commis viol pédophile sur viol pédophile pendant 20 ans, alors que sa hiérarchie était au courant. Alors bien sûr, maintenant, ils se planquent derrière le droit divin, puisqu'ils disent que à cause de Dieu, on ne peut pas lever le secret de la confession. Et bien sûr, ils disent qu'ils n'étaient pas au courant de tout, bien entendu. Alors, on va aller à Bucarest, puisque l'Organisation de défense des droits de l'homme, Amnesty International, a demandé aux sénateurs roumains d'abroger l'article 200 du Code pénal qui prévoit des peines de prison contre l'homosexualité. Donc en fait, le texte dit que les relations homosexuelles sont punies si elles ont lieu en public ou si elles provoquent un scandale public. Mais dans la pratique, toute personne au nom de la morale peut demander l'intervention de la police pour faire interner un couple d'homosexuels, y compris si ce couple se trouve dans une chambre d'hôtel ou dans une résidence privée. Donc c'est vraiment... sympa.
Le régime de la terreur dans sa plus grande horreur.
Mais il y a quand même un truc intéressant, puisque les homosexuels roumains et roumaines se sont mobilisés, puisque en ce moment même, il y a un congrès, je vais vous le retrouver, conférence internationale des homosexuels. J'ai tout de suite la voix plus assurée dès que je retrouve ma dépêche. Donc, conférence de l'Association internationale des lesbiennes et des homosexuels, donc qui s'est ouverte mercredi, c'est une première j'imagine. C'est la conférence « Accepter la diversité » pour sensibiliser l'opinion publique aux droits des minorités sexuelles. Une dizaine de personnes se disant, l'Organisation légionnaire et orthodoxe, c'est déjà tout un programme en soi, a fait une brève contre-manifestation, bien entendu. Donc cette conférence va s'achever dimanche. Il s'agit donc de faire pression sur ce même Sénat, toujours pour cet article 200 du Code pénal.
Chapeau.
Et puis je finis sur une touche sportive, puisque à Cologne, le coup d'envoi du championnat mondial de foot des homosexuels et des lesbiennes a été donné. Donc il y a 35 équipes, 14 féminines, 21 masculines, issues de 7 pays, qui vont donc prendre part à ce championnat. Et alors les équipes favorites, au cas où ça vous intéresse, c'est le Cream Team Cologne et les Lions de Londres pour les hommes. Et chez les femmes, c'est l'équipe des policières de Rhénanie du Nord-Westphalie qui est donnée comme vainqueuse probable. Voilà. Donc,
Je rappelle qu'en 2002, nous aurons notre Sydney à nous, puisque les Gay Games en 2002 se dérouleront à Sydney.
Oh.
Voilà. On écoute Assassin là-dessus.
Oui.
Le groupe masculin du jour.
C'est notre petit.
Disons que c'est une tradition, entre guillemets, que j'ai instaurée dans mon autre émission, Les Gueulantes, qui est un peu entre parenthèses pour l'instant. J'aime bien écouter les hommes quand ils chantent des choses intelligentes au sujet des femmes.
Militantes.
Ou d'autres choses, et militantes, oui. Et ici, ben, je te laisse nous en parler, puisque c'est toi qui as apporté la musique.
Et donc, oui, c'est une chanson qui s'appelle « L'objet », qui joue notamment sur l'ironie et sur ce masculin qui serait un neutre, puisqu'on dit l'objet il ou un objet. Et donc à la fin, ils vont donc nous dire que ce fameux objet, en tout cas ce qu'on traite comme des objets, eh bien ce sont les femmes.
C'est comme cette pub pour l'instant sur le candidat idéal, le candidat idéal, le candidat
voilà.
idéal. Le candidat
il idéal, il voilà. connaît ses dossiers.
Voilà. On écoute Assassin.
Savoir, c'est vivre, et maintenir dans l'ignorance, c'est presque un homicide.
Chaque forme, le parfait profil que lui demande la norme. Cette norme qui catalogue chacun de ses mouvements. Tout a l'air si posé du côté brillant. Mais allons plus loin, ou plutôt de l'autre côté du miroir. Là où le brouillard se mêle aux larmes qui coulent à l'intérieur des parois tenues en joue par là. De l'homme qui contemple son objet sans pour autant lui donner plus de liberté. Mais la vanité est l'affiche de la bêtise, et son propriétaire en est rempli quand il s'agit de ses devises. L'objet pleure souvent, rarement on le remarque, sauf quelques autres qui comme lui sont frappés de la même marque. Il est là devant moi et je vois qu'il souffre. On l'a cloîtré dans un coin jusqu'à son dernier souffle. Mais il fait toujours même ébréché, il garde sa fierté à la recherche du respect qu'on ne lui a jamais accordé. On préfère muer sans vie. Rarement j'en vois un qui sourit quand il me bat de sa vie. Brillant, mais l'intérieur a trop souffert.
illusion. La peur et la souffrance ont changé le goût de sa passion dans sa pièce. Il est seul de sa fenêtre, il voit un monde hostile à sa réflexion. Combien avant lui se sont fait casser à cause de leurs opinions. Il essaye, il s'accroche, il s'organise. Il lutte, il entend, il voit, il sent, il prend note et vise. Mais l'objet est victime comme beaucoup du racisme. On le sort seulement lors d'occasions bien spécifiques pour embellir un moment précis qui peut rapporter du fric. Car l'objet est doux, gracieux et manipulable. Énormément d'entre eux n'ont qu'un statut d'esclave. Pourtant combien de fois ils ont porté sur leurs épaules les malheurs du monde. Chaque seconde j'en vois un qui meurt dans l'ombre et on oppresse ceux qui restent. L'homme se sert de leur faiblesse pour imposer sa virilité et faire monter le stress. Mais tellement nombreux dans la même situation, attendez-vous bientôt à une révolution. L'homme ne pourra jamais éteindre sa flamme quand on sait que l'objet en question est la
Now let me tell you something, bitch.
One day I know we'll find a place of hope. Just hold on to me. Just hold on to me. Walk tight, one line. You're wanted this time. There's no one to blame. Just hold on to me. One day there'll be a place for us.
someday there'll be a place for us.
C'était PJ Harvey, un extrait de son nouvel album. Hop, ça s'appelle A Place Called Home. Alors maintenant, je vais vous parler du camp Women in Tune, ce camp de musique au Pays de Galles. Alors j'espère que je ne vais pas me planter parce que je vais devoir faire des allers-retours de mini-disques. Je vais devoir faire beaucoup de choses à la fois. Et j'espère que ça va bien se passer. Blam, je coupe l'écho. Voilà, en principe, c'est bon, je peux y aller. Alors, Whitkemp est un camp de femmes. Whitkemp est un camp de musique. Whitkemp est un camp dans lequel des femmes qui ont de l'esprit, c'est un jeu de mots en fait, parce que wit, ça veut dire intelligence, esprit, donc... des femmes avec du wit, c'est des femmes spirituelles, mais ça veut aussi dire Women in Tune, c'est le nom du camp. Donc femmes en harmonie, femmes dans le ton. Whitkemp, donc, c'est un camp dans lequel des femmes, musiciennes ou non, se donnent la possibilité de faire toutes les expériences qu'elles souhaitent en matière musicale ou autre. C'est un camp ouvert. On peut y aller en souhaitant faire partager une passion avec d'autres femmes et proposer un atelier pour le faire. C'est un camp végétarien, sauvage, et d'ailleurs certaines participantes aiment créer des atmosphères musicales tenant du rituel, au son desquels elles dansent aussi longtemps qu'ils leur chantent. Ainsi, pendant la cérémonie d'ouverture, dont voici un extrait. Avant d'écouter d'autres extraits sonores du Whitkemp 2000, je vous propose d'entendre ce que Heather, qui est derrière tout ce camp, m'a dit du pourquoi et du comment du wit. Comme c'est une interview en anglais et que je ne veux pas parler sur la délicieuse voix de Heather sans même mentionner son charmant accent, et comme je sais que certaines d'entre vous n'ont pas l'habitude d'écouter de l'anglais, je vous propose de vous dire avant de l'écouter ce que Heather raconte. Alors, je lui ai d'abord demandé de me raconter comment l'idée de Whitkemp lui est venue et comment cette idée est devenue réalité. Elle m'a raconté qu'en tant que violoniste se produisant régulièrement en concert et dans des festivals, elle avait l'impression de ne jamais voir beaucoup de femmes sur scène et que quand elle en voyait, c'était souvent dans des rôles de chanteuse, leading ou backing, donc devant ou derrière la scène. À côté de ça, peu, vraiment très peu d'instrumentistes ou instrumentalistes, je sais pas bien comment on dit. Plus tard, elle a suivi des cours pour devenir professeure de musique, et plus tard encore, dans les ateliers qu'elle organisait avec des jeunes, elle s'est trouvée confrontée au fait que chaque fois, c'était les garçons qui prenaient la batterie, la basse, la guitare électrique, et les filles, quant à elles, elles se retrouvaient toujours à chanter, ou bien timides dans leur coin à ne rien faire. Alors elle s'est dit que ce serait tellement bien d'avoir un espace, un événement lié à la musique, dans lequel les femmes se sentiraient à l'aise et libres d'expérimenter, sans être intimidées ou effrayées, comme c'est souvent le cas dans tout ce qui touche à la musique, surtout lorsqu'il s'agit de musique électrique ou de technologie de la musique. Dans ses cours, Heather a aussi rencontré des enseignantes de musique qu'elle trouvait, donc des profs quoi, qu'elle trouvait vraiment formidables, et elle voulait que d'autres femmes puissent bénéficier du talent de ces femmes sans devoir suivre les cours que Heather était en train de suivre dans sa formation de prof. Une partie de son programme de cours touchait à la recherche de financement pour des événements culturels, et c'est ainsi que Petra, une amie faisant partie du comité, lui a suggéré de retenir comme projet pour ce cours ce camp de femmes dont elle rêvait depuis si longtemps. Heather a réuni un groupe d'amis qui ont décidé de s'investir dans ce projet, et c'est ainsi que le premier WIT Camp est né. Et il n'était pas prévu d'en faire un deuxième. Seulement, le premier WIT a été un énorme succès et tout le monde parlait de projet pour l'année suivante, et puis les gens de la loterie qui avaient financé le projet étaient aussi très heureux, et c'est ainsi qu'elles ont continué. On écoute Heather.
Well, where's the beginning? Okay, I've been a performer for a long time. My main instrument is the fiddle, the violin, mm-hmm. and I've been performing for many years and at lots of festivals and events, and it always felt that there were never enough women represented in music on the stage, and if they were, it was mainly vocals, often backing, very few instrumentalists. So that was in my mind. Then I did a community music training course to be a tutor, and I did work experience workshops with young people, were a lot of them, and always it was the boys grabbing the drum kit and the bass guitars and the electric guitars and the hand drums, and the girls either not doing anything or singing and feeling timid. And so that was all going around in my mind, and I began to have this feeling, oh, it would just be great to have a festival of music where women could have a space to just kind of find themselves within it and feel able to experiment without this pressure or this fear that often obviously surrounds music and music technology particularly, and electrical instruments in music mm-hmm. for women. Mm-hmm. And at the same time, at some stage then I was doing my community music training course and was getting an experience of lots of wonderful tutors, some of whom have been here actually, that taught me the basics of making music, you know, with the community, and voice workshops, drumming, raga, all sorts of things. And I thought, this is fantastic, you know, I'd like to be able to make this available for lots of people, not just people like me who are doing a course. And then part of the course was about funding, and I heard about ways to raise funds and the lottery, and I thought, and I had to do a project, and my friend actually Petra, who's on the committee, said, well, there's your project, your dream of your women's camp, you could make that your project. And so that's really what happened. Suddenly all the bits came, and I thought, and I've talked to my friends about it, and there was a group who were really into the idea, so we called an open meeting. And out of that open meeting and the friends who wanted to be involved came a very large committee group to start with, and it whittled down. And we got the first camp together, and it was never necessarily meant to be more than one camp. But actually everyone was saying, well, next year, and this is fantastic, and all the feedback forms. So it was, wow, you know. The lottery had a monitor here, they were really pleased, so it was okay, let's go for it again. And so it's grown from that, really.
Ensuite, comme vous allez l'entendre, j'ai demandé à Heather comment elles avaient procédé dans leur recherche de financement, quelle partie du camp ça couvre et comment ça marche. Elle m'a répondu que, on s'en doute, c'est plein de formulaires à remplir, beaucoup de recherches à faire. Avec le temps, elles ont appris les rouages du système, mais maintenant elles vont plus vite, elles ont acquis de l'expérience. À partir de questionnaires qu'elles ont soumis à des femmes pour déterminer l'intérêt d'organiser ce camp, elles ont déterminé la faisabilité du projet, puis elles ont mis un budget sur papier. Elles ont demandé 5000 livres britanniques à la loterie et elles en ont reçu, la première année, 4221. Après le camp, il y a eu une évaluation et les gens de la loterie ont apprécié, donc elles ont sollicité un plus gros financement l'année suivante qu'elles ont obtenu. Évidemment, elles ont aussi des rentrées propres, les tickets d'entrée et les divers produits mis en vente, t-shirts, mugs, vidéos et même un CD cette année. À ça s'ajoute tout le travail bénévole qui est comptabilisé dans le budget et tout ça fait qu'elles peuvent témoigner de ressources propres vis-à-vis de leur soutien extérieur. L'année dernière, elles ont aussi eu des sous de l'Europe pour le côté technologie et cette année, c'est juste la loterie et un syndicat de musiciens qui financent. In fine, elles voudraient pouvoir être autosuffisantes et ne pas devoir rechercher de fonds extérieurs, mais à cette échelle, avec la masse d'ateliers offerts, c'est difficile. So you get fundraising by the lottery. How does that work, and what part of the event does it support? I mean, money is an important issue in such an event, especially when it comes to a women's event. So how do you manage to get it all together?
Well, I mean, it's big, thick application forms, a lot of research. I've finished, thanks. A lot of research, a lot of time. I mean, it's getting a faster process because we're learning the ropes of doing it. But basically, yes, we had to get questionnaires for everyone in the area, get women to fill it in, see what they wanted, whether this was a good idea, put all the evidence together, find all the contacts, put a budget together. And the first one was for a small grant. We applied for 5,000. It was a small fast-track grant. And they gave us 4,221. And then the monitor came along, evaluated all the forms we sent in, all the things afterwards, and they obviously liked it. So then we decided the next year to go for more money. Mm-hmm. But we provide a lot of money ourselves on the gate. Mm-hmm. You know, although our tickets are subsidized, that still provides our match funding. So we get money from the lottery and we provide it ourselves. Plus we have a lot of, if you understand the term, in kind, you know, a lot of volunteers doing things for nothing, really. And that is all counted in as... it has a value on it, so that's our match funding as well. It's the ticket sales at the gate, and it's all the time during the year that is put in mm-hmm. by committee and volunteers. And last year we also had funding from Europe as well for mm-hmm. it, for the technology side. And this year it's Lottery and it's Musicians Union gave us a small amount. What we'd like to do is manage to sustain it without having to seek funding. Mm-hmm. Which we could at a much smaller scale, but at this level of kind of wealth of workshops, talent, facilities.
Au sujet du programme, je lui disais que ce que j'aime bien, c'est que, comme dans le festival Voix de Femmes, mais ça je ne lui ai pas dit, c'est pas seulement un endroit où on peut venir regarder et écouter des artistes, on peut aussi s'impliquer en faisant de la musique, souvent avec les femmes qu'on a vues sur scène le jour d'avant d'ailleurs. Elle m'a répondu que c'est vraiment de ça qu'il est question. L'idée est de pouvoir écouter de la bonne musique faite par des femmes, mais aussi de permettre aux femmes présentes, qu'elles se considèrent musiciennes ou non, de s'essayer à l'une ou l'autre chose, que ce camp soit l'occasion d'une progression ou d'une découverte. Tous les ateliers dans tous les aspects de la musique sont donnés par des femmes qui peuvent ainsi servir de modèles et qui, lorsqu'elles sont sur scène, disent « oui, moi aussi j'ai la trouille ». Mais quand même, elles y sont, elles prennent des risques et elles y vont sur scène. Et puis, il y a cet open stage, cette scène ouverte à la fin de la semaine, qui permet aux femmes qui ont travaillé toute la semaine de venir, si elles le souhaitent, présenter leur travail aux autres en le jouant sur scène. Et ainsi, c'est un espèce de cercle qui se nourrit des deux côtés. Les artistes partagent leur savoir avec les participantes, qui peuvent à leur tour faire l'expérience de la scène et éventuellement y revenir. Ainsi de Scotty, qui était sur l'open stage l'année dernière, et au programme officiel... cette année.
About the way things happen in the program, what is really nice, I think, is that you have the opportunity of experimenting and playing music with women, have the help and expertise, I don't know if that's how you call it, of professional teachers in music. And then in the evening there are performances from very good artists, so you that's a really good way of putting it. I mean, you planned it both ways. It's not just a passive way of listening
exactly
to it.
It's just about it's about having the opportunity to experience good music, but it's very much about giving the women opportunities here to find out whether they're consider themselves not a musician at all, or whether they consider themselves a good musician. What we're trying to do is offer something for everybody, so there's a growing here or a discovery here, and then that's supported by the fact that all the workshop leaders in all the different aspects of music are women. Yeah. So you have women role models, the performers are all women, so there it's like, and they're women saying to us, we get scared too, but they're still up there doing it. Mm-hmm. So the open stage gives that little nudge, okay, you've been working all week on things, here's your chance, if you want to, you don't have to, obviously there's no obligation here to do anything, it's, but here's an opportunity if you want to get up and do it behind a microphone or acoustically, mm-hmm. and try it out. So yes, the whole idea from the start has been that one, like a circle, one feeds the other, feeds the other, and it is working, because, you know, Scotty was on the open stage last year, she was last night on the main stage, and look how well she went down.
Pour ce qui est de l'aspect technologie de la musique, ce sont des disciplines qui sont surtout présentes et apparues dans le WITCamp depuis la deuxième année, donc l'année dernière. Ainsi, l'ingénierie du son, la technologie du son, le DJing sont les domaines de la musique où on voit le moins de femmes. Pourtant, les jeunes femmes s'y intéressent, mais elles n'ont pas toujours la possibilité d'approcher le matériel, de toucher les platines et de s'y essayer. Souvent, les garçons y sont arrivés les premiers. C'est pour ça que les filles du comité de WIT ont organisé des ateliers dans ces domaines, et aussi avec l'idée d'essayer d'attirer plus de jeunes femmes dans le camp. On écoute Heather.
What I find interesting and good in the workshops as well is that there are traditional stuff, drumming, singing, and so very high-tech studio technique, DJing. Was it like that since the beginning, or is it something that you introduced recently?
First year wasn't. It was more the traditional workshops, not anything to do with technology side. But yes, last year we introduced that. We had the electric band workshop. Actually, the electric band workshop was here from the start. But in terms of the sound engineering side and studio technology, that and DJing, that's all new this year. We did do sound recording, sound engineering last year. This year we're doing sound engineering and DJing and studio technology, so we've added to it. Mm-hmm. And that is because music technology is the biggest side of music that's underrepresented by women.
Yes.
And it's an area that young women are particularly interested in, mm-hmm. but don't often get that opportunity. Mm-hmm. Of getting their hands on the decks of the technology, again, without kind of the boys getting in there first, really.
Yes.
And so we want to attract more young women, and we have attracted some more this year, not as many as we'd like, but hopefully that will grow.
Yeah. Mm. We will talk a lot about Women in Tune in Belgium anyway.
Right, maybe we'll have more Belgian women here next year.
Yeah, I think so.
I hope so.
Okay, well, thank you very much.
No problem.
Alors, voilà, j'ai coupé le rire de Heather. Aïe, 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 aïe. Voilà ce qui se passe quand on est stressé. Bien. WITCamp, je vous l'ai dit, c'est un camp un peu sauvage. Alors, bien sûr, les femmes qui ont mis ce camp sur pied ont retenu des sources d'énergie alternatives pour donner de la lumière sur scène et du courant aux amplis. Alors, le matin, si on se lève assez tôt, on peut aller écouter le son de l'éolienne dans le vent. Je vous laisse l'écouter. C'est une musique très agréable et très relaxante, je trouve. Sauf quand je fais du bruit avec le micro, mais c'est pas facile. Vous avez entendu que interviewer quelqu'un, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas non plus. Et vous m'avez entendu hésiter.
l'humanité, gna 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 gna. En anglais, en plus, c'est encore plus difficile. Bon, je reviens dans le déroulement du Whitcamp. Donc, le matin, si on se lève tôt, on peut aller écouter l'éolienne qui chante toute seule sur le site. Après, on va déjeuner et puis il y a le morning meeting, le meeting du matin, au cours duquel Roxane, qu'on entendra plus tard, fait son show et c'est très rigolo. Et puis, à ce morning meeting, on présente les ateliers, donc on peut décider de ce qu'on va faire dans la journée. On fait appel aux bénévoles pour certains travaux communs à réaliser, aller un peu chipoter dans la cuisine, des choses comme ça. On échange des infos. Après, ce sont les ateliers qui commencent. Alors, je vais vous faire entendre des extraits de toute une série d'ateliers. D'abord, le début d'un atelier de chant en harmonie de Judith Silver. On écoute ça. Voilà, alors ça c'est pour vous donner une idée de l'ambiance dans les ateliers, comment ça se passe, hein, comment on apprend, tout ça. Mais aussi, si je vous ai passé cet extrait particulier, c'est parce que cet extrait a une histoire. En fait, moi, pendant que cet atelier-là avait lieu, j'étais dans un autre atelier qui était atelier technologie de la musique. Alors dans cet atelier, on discute de tout ce qui est technologie de la musique. Donc Alison est arrivée avec un PC portable, une table de mixage, un ampli, deux baffles, un clavier électronique, un micro, mais on s'en est pas servi, quelques CD de samples, je pense que ça doit être à peu près tout, et un lecteur enregistreur de mini-disque Capital. Notre objectif, c'était de créer un petit morceau de musique qui servirait d'introduction sur le film vidéo produit lors de ce Whitcamp. Donc à chaque Whitcamp, il y a une vidéo. Bien. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé enregistrer avec le mini-disque des petits morceaux d'atelier un peu à droite et à gauche. Et on a mixé tout ça sur un beat électronique qu'on est allé sampler sur un CD de samples tout à fait légaux.
Et voilà, on a ajouté encore des petits trucs, des petites fioritures et des petits machins. Et je vais vous faire écouter ce que ça donne à la fin, le mix que ça donne. C'est assez comique. On écoute le mix de l'atelier technologie de la musique.
It's a sunny day and I'm so happy!
Voilà, alors vous avez entendu, si vous avez bien écouté, que là-dedans il y avait le sample de cette chanson que Judith Silver apprenait, donc « You lift me higher, just let me be there for you ». Donc on a enregistré ça, on l'a accéléré parce que c'était un peu lent par rapport au beat qu'on avait. Et puis il y a un peu de tout, hein. Il y a des instruments avant. Vous avez remarqué qu'on a appliqué un effet, une distorsion à la fin cette petite pièce d'instrument avant qu'on a répété. Et puis il y a des percussions, du chant et quelqu'un qui dit il y a du soleil aujourd'hui et je suis tellement heureuse. Enfin voilà, ça vous donne une idée des choses qu'on peut faire au Whitcamp en atelier technologie de la musique. C'est vraiment très très chouette. Bien. Alors, c'est très gai de se balader sur le site du camp, d'aller d'une tente à l'autre pendant les ateliers et de voir ou d'entendre ce que les autres font. Souvent, on surprend des choses absolument superbes. Ainsi, ce cœur africain. Moi, ça me donne vraiment envie de danser. Je suis en train de sauter sur ma chaise. Là, c'est vraiment super. Alors, en traversant le camp, on rencontre aussi des femmes en train de faire de la musique ensemble en dehors de tout atelier. Ainsi de Roxane. Roxane animait des ateliers dans le cadre du camp, atelier de guitare pour débutantes, écriture de chansons, et tous les soirs aussi elle animait le chœur du jour. Donc on pouvait aller chanter dans une petite chorale du camp, aller qui voulait, et c'était toujours des chouettes choses. Ça avait l'air très rigolo. Donc ici, j'ai surpris Roxane avec une copine à elle dont j'ai pas le nom, malheureusement. Ça, c'est vraiment une des choses que je dois apprendre, c'est à demander les noms des gens qui font de la musique pour pouvoir leur rendre justice après. Donc je m'en excuse et peut-être que je pourrai réparer ça à l'avenir. Voilà, c'est une chanson écrite par Roxane. Et c'est pas mal du tout, vous allez l'entendre. Avec un petit peu d'ambiance avant, on entend, elle s'échauffe, tout ça. Hein. Enregistré sous le soleil, dans le pré de Whitcamp. Voilà. Alors, dans les ateliers, il n'y a pas que du chant. Ici, un extrait d'un atelier instrument à vent.
Thank you.
Évidemment, la diffusion radiophonique est absolument impitoyable et dans tout ce que je vous ai diffusé, on entend des fausses notes, des gens qui ne sont pas dans le temps, des gens qui parlent. Mais ça vous fait entendre que ce sont dans tous les cas des musiciennes amateurs qui apprennent avec des maîtresses, on va dire, professionnelles, et que assez rapidement, avec ces enseignantes, on fait ensemble de la musique tout à fait agréable et enthousiasmante, et voilà, c'est vraiment très chouette. Alors, il n'y a pas que des ateliers qui tournent autour de la musique dans ce camp, il y a aussi d'autres choses, du shiatsu, de la danse, mais aussi des ateliers de raconter des histoires, storytelling. En anglais, évidemment. Alors, un jour que j'étais en train d'écouter une de ces femmes raconter une histoire, il y a une autre femme qui est entrée et qui est venue dire pendant l'interruption « Ah, je commence maintenant un atelier de chant bulgare, si ça vous intéresse. » Parce que chacune peut arriver, comme je l'ai déjà dit, et proposer un sujet. « Ah ben moi, j'ai quelques connaissances dans tel domaine, je vais organiser un atelier là-dessus cet après-midi à telle heure, celles qui veulent se joignent à moi. » Donc là, chant bulgare. Je n'ai pas pu y aller parce que j'avais d'autres obligations. Mais plus tard, j'ai pu rejoindre ces femmes un autre jour et enregistrer de nouveau une chanson. Vous allez entendre, encore une fois, c'est plein d'imperfections tout ça, mais je vous la passe parce que c'est chouette, parce que ça donne une autre facette du camp et parce que c'est aussi un bon morceau d'ambiance. Vous allez entendre que c'est très drôle. En fait, avant d'enregistrer ce morceau, j'en avais enregistré un autre et puis elles m'ont dit « Oui, mais non, attends, on va te chanter une autre parce que celle-là, on la chante mieux et tout ça. » Alors, vous allez les entendre. Au début, je leur ai dit évidemment que c'était pour une émission de radio à Bruxelles et tout ça, sur une radio indépendante. Alors, elles rigolent. Il y en a une qui dit « Allez, on se concentre, on cherche les vibrations. » Et puis, il y en a une autre qui dit « Ah, on va être des stars de la radio en Belgique. » Et puis, vous allez en entendre une qui dit « C'est où la Belgique ?» Et puis, alors, évidemment, tout le monde rit. Alors, moi, je lui dis « Écoute, moi, je vais pas effacer. Hein, donc, tu assumes toute la responsabilité de ce que tu viens de dire. C'est quoi ton nom encore ?» Et puis, elle chante. Et alors, après, je les interview. Je leur demande d'abord leur nom. Elles s'appellent Liz, Anne-Marie, Anne, Kirsty et Jude. Je leur demande ce qu'elles trouvent de spécial dans le camp. Écoutez, c'est drôle. Il y en a une qui dit l'atmosphère et les gens. Il y en a une autre qui dit les femmes. Et puis, il y en a une autre qui dit les bottes en caoutchouc, parce qu'il pleuvait à ce moment-là. Les bottes en caoutchouc, les shorts et la danse. Et les genoux des femmes qu'on voit. Oui, super. Les genoux, c'est vraiment les genoux. Les genoux d'Anne, pour être précise. Et puis, alors, je demande si elles sont déjà venues. Les autres années aussi, c'est la première fois qu'elles viennent. Il y en a une qui est déjà venue l'année d'avant. Et elle me dit « Oui, le camp s'est amélioré. Maintenant, on a des tables et des chaises pour le repas. Et l'an prochain, avec un peu de chance, on aura aussi de la bouffe. On a des toilettes avec une chasse, une douche chaude et vous devez toutes venir de Belgique. » Voilà, je vous laisse écouter les chanteuses bulgares, dont je ne sais pas s'il y en avait une bulgare dans le tas, mais elles chantent comme des Bulgares.
Belgium. I was actually joking.
Well, I don't think I'm going to erase it. So
that's right.
You're taking full responsibility. What's your name?
She's stupid. Yeah. Anne Marie. Okay. One. This is
three,
not bad.
Three.
Oi de boy, come on, yes, she'll be cherella. Oi de boy, come on, yes, she'll be cherella. Nishem dragi, nishem ni to be duvala. Nishem dragi. Shem nito beduvala. Yel me mai kamoya bila ikarala.
Perfect. Now I'm going to ask you your names, okay?
Quick, before we get you to record another one.
And we can improvise a little interview. So what's your name?
I'm Liz.
Anne-Marie.
Anne.
Kirsty.
Jude.
So, I'm Cecile. Could you tell me what you find special about this camp? Who wants to answer this?
I think it's the atmosphere and the people.
Only women, obviously.
It's the women. That's all I have to say.
It's the Wellington boots and the shorts and the dancing and the knees showing. It's really great. It's the knees. It's the knees, full stop. It's Anne's knees, to be precise.
And Mesh, your knees are okay as well.
Well, thank you. So, have you come to the former camps as well? Is it your first time here or are you regulars here?
And me first time too.
It's my second time. And the camp's got better since the last time, yeah. Huh. We have all sorts of things. We have tables and chairs for lunch now. Yeah. Next year we're going to have food as well. We have flush toilets and hot showers, and please come from Belgium.
Voilà. Bien, maintenant on va passer à une autre interview, beaucoup plus longue que celle-là, et en français. Vous allez pouvoir vous reposer un peu. Il faut juste que je change le mini-disque. Voilà. Alors, il faut que le mini-disque se mette en place. Voilà. On va y arriver. Et je vais vous faire entendre. Oui, c'est bien ça. Un interview, donc, qui est très long. Il dure 17 minutes. En français, de Pascal et Anastasia. Et je ne vous dis pas plus, je ne vous dis rien d'autre parce que elles vont tout vous dire. Voilà, Pascal et Anastasia. Bon alors, dans ce camp, il n'y a pas que des anglophones, j'ai même trouvé quelques francophones. Notamment Anastasia qui est française à l'origine, c'est ça?
Non, italienne.
Oh, mais oui, italienne, qu'est-ce que je raconte? Italienne.
Mais née à Roubaix.
Né à Roubaix, qui parle français, qui vit à Berlin.
Oui, exactement.
Bon, ben ça, c'est le genre de parcours qu'on rencontre tout le temps dans ce festival. C'est des femmes qui ont vécu aux quatre coins du monde, elles bougent tout le temps, ça n'arrête pas. Enfin, bon, voilà, c'est comme ça. Alors, comment est-ce que tu as connu Witt? Comment est-ce que tu es arrivé ici?
Je suis arrivé ici.
En voiture.
Oui, en voiture. Même s'il y a eu la grève des pêcheurs dans la mer, on a attendu à Calais parce qu'on voulait absolument venir ici. Et comment j'ai connu? J'étais en Allemagne, au LFT. Lesbentreffen. Qu'est-ce que c'est? LFT. Lesbentreffen. Qu'est-ce que c'est le LFT?
Lesbenfrauentreffen.
Non, non, c'est pas Frauen. Si c'est lesben, c'est pas Frauen. Bon, ça fait rien.
Donc, t'as trouvé ça dans une organisation lesbienne?
En Allemagne. Parce que Richard est venu à Bochum. Et je vais aussi dire aux filles de Bruxelles, si elles veulent venir au LFT. En Allemagne, c'est très très bien. On est beaucoup de lesbiennes. Ça dure 3 jours.
Et
c'est un grand meeting de lesbiennes. Il y a des conférences, il y a des workshops. Tu peux dormir là, tu peux travailler si t'as pas d'argent. Et aussi, tu t'amuses. Il y a de la musique, disco. Et tout est à disposition des lesbiennes.
En allemand.
En allemand, oui.
Mais international.
Mais il y a aussi des traductrices.
Hmm.
Ouais, c'est super. Hein. Et c'est toujours au mois de juillet quand c'est la Pentecôte. Ça dure 3 jours.
Bon, ça va. Donc l'année prochaine, on y sera.
Et l'année prochaine, c'est à Rostock. Et dans 2 ans, c'est à Hambourg. C'est peut-être mieux Hambourg, parce que Rostock, c'est un peu...
Bien, mais c'est loin.
Non, c'est l'Est. Et il va y avoir beaucoup de problèmes avec les fascistes.
Ah oui, je sais, mais il faut y aller quand même.
Oui, mais il y a beaucoup de femmes déjà qui ont dit non, on n'y va pas cette année au LFT, parce que il y a trop de fascistes, elles ont peur. Moi, j'y vais, je m'en fous. Je vais voir aussi qu'est-ce qui se passe dans l'Est. C'est la première fois que ça se fera dans une ville de l'Est.
Mm-hmm.
Après le mur, quoi. Voilà. Donc, je suis arrivée ici grâce à Rachel. J'ai parlé avec elle et je disais, oh, qu'est-ce que j'aimerais bien. J'ai vu le film, j'ai vu les photos. mais je croyais que c'était un rêve. Mais à la fin, la goddess, elle nous a indiqué ta 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 ta, et avec Vipke, qui est un gros camion, on est tous arrivés ici. Et avec Fatih et Claudia. Et on s'est rencontrés dans le sud de la France. Et on est venus ensemble jusqu'ici.
Super. Et alors pour les auditrices qui étaient des fidèles du bistrot lesbien, les connexions européennes se font vraiment à une vitesse extraordinaire ici. Par exemple, Anastasia est une grande amie d'Anna Fraternal.
Oui, exactement. Anna, je suis sûre que tu n'es pas là, que tu es en Grèce, à Cassiopia, mais je te salue.
Ok. Bon, alors maintenant, je voudrais un peu que tu me dises comment tu trouves, puisque c'est aussi la première fois que tu viens dans ce camp. Qu'est-ce que tu en penses, l'atmosphère, tout ça. Ce que tu y trouves, ce que ça t'apporte.
Alors, c'est super parce qu'en premier, même s'il y a des difficultés avec la langue, mais je m'en fous. Mais tu peux faire des workshops. Donc, tu n'es pas seulement, comment on dit, spectatrice, mais tu participes, tu es active et tu es créative. Et avec les femmes, et avec différentes, il y a le chant, les percussions, différentes possibilités. Et je trouve que toutes les femmes sont super sympas.
Oui, l'ambiance est assez géniale. Et alors, l'organisation aussi quand même c'est assez impressionnante.
Oui, c'est vraiment... C'est les lesbiennes et les femmes.
Nous avons justement ici Pascal. Pascal qui parle aussi français et qui essaye de s'enfuir.
En tout cas, je voulais ajouter que si l'année prochaine vous voulez venir, vous êtes les bienvenus et j'espère qu'on se rencontrera.
On n'a pas fini, attends, on reviendra à toi. Donc Pascal, c'est vraiment quelqu'un d'important ici parce qu'elle fait partie de ce qu'on appelle le crew, c'est-à-dire le team, l'équipe qui a mis le bazar sur pied. On les reconnaît à leur petit badge flash multicolore et moi je suis toujours un peu impressionnée quand je les rencontre parce que c'est des filles. C'est les filles qui ont organisé, quoi, hein, quand même.
C'est la fire.
Alors, Pascal, elle se lève tous les jours à 7 heures. Pourquoi est-ce que tu te lèves tous les jours à 7 heures?
Bah, parce que je suis une insomniaque.
Mais encore, c'est quoi la première chose que tu fais pour le camp le matin?
Non, je suis pas une insomniaque, mais tous les matins, il faut que j'aille allumer le feu sous le chaudron. Et dans ce chaudron, il y a de l'eau. Et je fais chauffer l'eau pour le hammam.
Donc, j'aimerais bien que tu expliques un peu comment ça fonctionne et aussi comment t'es venue l'idée de mettre ça sur pied ici, d'où tu as trouvé cette idée et comment tu l'as appliquée ici.
Comme ça en direct, oh là là. Ok, l'idée en fait elle vient du Maroc. Je suis allée en vacances une fois au Maroc et dans une petite ville au bord du Sahara, il y avait un hammam qui est en fait vraiment différent de ce qu'on a ici. Mais enfin, c'était tellement agréable d'aller dans cette maison. Et puis, c'était un endroit où les femmes, séparément des hommes, se retrouvent et puis se jettent des baquets d'eau sur la tête. Elles se font des massages, elles se grattent le dos, elles se nettoient. Et il y a toute une atmosphère fantastique. Et j'ai pensé, ici, on a besoin de... Bon, on a une douche quand même qui marche au gaz, mais pour toutes seules. Mais il n'y en a qu'une. Et puis pour toutes ces femmes, ça serait agréable d'avoir un peu plus de facilité et que ça serait assez pratique en fait, ça. Alors on a trouvé un chaudron, on a fait un support. Et puis bon, à 7 heures, il faut aller allumer le feu, quoi. Quand on se couche à 2 heures le matin, c'est un peu dur, mais... Et puis le feu, il faut l'alimenter toute la journée. Et puis après, les femmes viennent, elles enlèvent tous leurs habits. Bien sûr, ça aide. Et puis elles se mettent toutes nues dans le champ, elles se jettent des baquets d'eau sur le... Tu mélanges ton eau chaude, très chaude du chaudron avec un peu d'eau froide. Puis tu te nettoies comme ça et il y a de l'eau chaude toute la journée.
Oui, donc l'idée c'est que dans ce grand chaudron est plein d'eau qui chauffe évidemment au-dessus du feu. Alors il y a à disposition toute une série de seaux avec des petits... comment est-ce qu'on appelle ça? Des petits baquets, des petits contenants d'eau, bref. Et donc on remplit son seau avec une quantité d'eau chaude qu'on mélange à de l'eau froide à la température qu'on veut et puis on s'asperge, on se lave effectivement dans les prés. Et alors en plus, il y a un détail assez amusant, il y a une baignoire perdue au milieu de ce champ.
Ouais, il y a une baignoire. Et la baignoire, c'est très agréable de prendre un bain, bien sûr, seulement j'ai remarqué qu'en fait, ça prenait beaucoup de baquets d'eau. Et quand tu vides le chaudron avec 10 baquets d'eau, après ça prend une heure pour réchauffer, alors la baignoire, je crois qu'on va l'oublier. Mais peut-être l'année prochaine, on aura une baignoire avec un feu directement dessous. Et pour pas se brûler les fesses, on mettra du bois.
Bref, ça évolue tout le temps. Le confort de ce camp est en évolution constante. Et est-ce que tu sais quelque chose du sauna? Parce qu'il y a un projet de sauna pour l'année prochaine.
Il y avait un projet de sauna, mais je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. La femme qui voulait venir la construire, parce qu'elle aurait été, la sauna aurait été construite avec des belles... comment ça s'appelle déjà en français? Des belles... coupe. Hey, straw.
La paille,
voilà.
Ah, les balles de paille.
Voilà, elle aurait été faite en paille, la sauna, mais je crois qu'il n'y avait pas assez de participants pour construire cette sauna avant le festival, mais peut-être l'année prochaine, peut-être. Il y a ce festival, là, je crois, à la place pour des choses comme ça, dans la créativité, non seulement dans la musique, mais aussi dans toutes sortes de projets écologiques ou un peu différents. C'est aussi une bonne ouverture pour tout ça.
Toi, tu étais là depuis le début, tu m'as dit que tu avais assisté presque à la première discussion. Oui, alors raconte un peu comment ça s'est passé.
C'est vraiment l'idée de Heather. Et un jour, parce qu'elle était, elle fait partie d'un groupe de musique, de plusieurs en fait. Et je crois que l'idée lui est venue comme ça d'organiser un festival pour permettre aux femmes justement, surtout, pas seulement d'être spectatrices, mais d'apprendre. Vraiment de s'enrichir à tous les niveaux. Donc il faut pas, même si tu n'as jamais touché une guitare, c'est le moment de venir et d'en toucher une, ou un violoncelle, ou une flûte, ou ta voix, ou de la percussion. Puis allez, il y a des instruments à disposition. Il y a vraiment, c'est vraiment le lieu pour apprendre et le lieu pour s'amuser et le lieu pour faire des rencontres. Hein. C'est ouais.
Et comment est-ce que ça a évolué depuis le début? Comment est-ce que tu as vu évoluer? Est-ce que ça a beaucoup changé?
Non, pas énormément. On essaie de s'améliorer un petit peu, quoi. Chaque année, chaque fois qu'il y a des problèmes, on essaie de les résoudre. Ce qui fait que chaque année, c'est un petit peu mieux. Bon, il faut se battre un peu avec le climat, quoi. Donc, les femmes qui viennent, prenez vos bottes, prenez vos manteaux. Sinon, l'année passée, on a eu quand même un temps meilleur que ça. Mais disons, il fait froid la nuit et puis... Il pleut des fois, alors bon.
Vous faites combien? On dort tout ensemble.
Voilà.
On a une tente de deux, mais on a dormi à quatre. Et on a... Oh, c'était super. Oui, parce que sinon, c'est la première fois que j'ai eu chaud la nuit passée. Oh, c'était vraiment bien.
Mais hier, pour aller au cinéma, j'ai pris ma... je me suis fait une bouillotte, puis je l'ai mis sous mon pull. Et comme ça, j'ai pas eu froid. Donc tu apprends à te...
Tu te protèges.
Voilà, tu te protèges.
Et puis on se retrouve tout autour du feu.
Chante,
ça c'est chouette aussi.
Ouais. Ce qui serait bien pour le futur du festival, ce serait que plus de femmes de l'étranger viennent ici et apportent leur culture, plus de culture. On veut vraiment, l'emphasis elle est vraiment sur le partager les cultures, mélanger tout ça, apprendre l'une de l'autre. Hein. Ouais, c'est vraiment important. Et ouais, si les femmes de Belgique pouvaient venir, ce serait bien. Prendre un bus ensemble et puis venez nous rejoindre.
On va y travailler.
Il faut demander ça à l'avance, hein, parce qu'on ne peut pas prendre... Mais oui, il y a des possibilités comme ça.
Et quand même, c'est aussi une façon de pouvoir venir ici, de participer, de... Tu sais? Parce que sinon, tu dis, oh, c'est trop cher, c'est trop loin, et le voyage et tout ça, et tu dis, oh non, j'y vais pas. Mais quand tu sais que dans des endroits comme ça, tu peux travailler, c'est bien. Oui.
Et aussi, un autre facteur, c'est qu'à 10 minutes à pied d'ici, il y a une terre de femmes. Bon, c'est pas très grand, hein, mais il y a la possibilité, après ou avant le festival, de camper là-bas. Et c'est ouvert. Il n'y a pas besoin d'écrire, rien du tout. Tu te présentes avec ta tante. Et c'est ouvert, ouais.
Oui, est-ce que tu peux justement m'en dire un peu quelque chose? Comment est-ce que ça fonctionne? Tu me l'as déjà dit, hein, mais comment est-ce que ça marche? Combien de femmes vivent là? Comment est-ce que ça a commencé? Qui a acheté le terrain? Tout ça, si tu le sais.
Je connais pas tous les détails, hein, mais ça a commencé quand même assez longtemps, peut-être 15-20 ans en tout cas, quand la maison a été... habité par des femmes, surtout des Allemandes. Et puis, à un moment donné, ça a été, elle devait être vendue. Et les femmes se sont mises ensemble et vite, elles sont allées travailler, gagner de l'argent. Elles ont acheté la maison. Donc, cette maison appartient aux femmes. Et puis, depuis, il y a beaucoup de changements parce que c'est un endroit qui a pas vraiment de routine, en fait. Puisque c'est tellement ouvert, il y a pas les seules lois. Enfin, c'est pour les femmes et pour les filles. c'est tout. C'est c'est une terre féminine, femelle. Et ça, c'est la seule loi. Sinon, tu viens, tu pars. Il y a du bon et du mauvais dans ça. Hein. Il y a des difficultés, il y a des choses qui tombent en ruine, mais aussi des bonnes choses. Ça veut dire n'importe qui. Quelle femme peut se présenter, venir camper pour une année, venir camper pour deux ans, une semaine. Ouais. Il y a aussi des abris, mais bon, tu peux venir et puis réparer une des granges. Parce qu'il y a, des... C'est pas toujours... C'est vraiment de basique. C'est vraiment pas le confort. Hein. Il n'y a pas de confort. Hein. Mais tu peux te faire un feu et puis vivre à la campagne et regarder les collines. C'est beau.
Un espace de liberté dans lequel les femmes peuvent vivre et s'exprimer comme elles le veulent à l'abri du regard masculin.
Voilà, oui. Et puis il y a une demi-heure d'ici, il y a la mer. Donc c'est vraiment très beau, la côte aussi. Pour aller se baigner, voir des dauphins. On a vu des dauphins, des loutres. Des loutres, non ?
Des loutres ?
Non, c'est... C'est des loutres, hein, oui. Oui, oui, c'est possible de voir des loutres. Des dauphins, des loutres, oui. C'est bien ça, hein, c'est les loutres, c'est vraiment franc. Ouais. Et puis, c'est pas loin d'ici. Ouais.
Ok.
Le climat.
Non.
C'est magique ici. C'est très magique. Oui, je trouve que c'est très magique.
Ouais, c'est
et chaque jour, je sens que chaque jour, l'énergie grandit et on est plus proche des autres femmes. Il faut un peu de temps, tu sais. Mais je trouve que c'est bien que ça soit long, 9 jours, 8 jours. Parce que si c'est 3 jours, tu dois partir, tu sais. Mais maintenant, ça commence à... Quelque chose grandit. Ça grandit, ça grandit et ça... Hein?
Tu commences à faire des contacts et puis à se reconnaître.
Oui, ouais. Chanter ensemble et faire de la musique ensemble. Tu prends plus confiance.
Oui.
On est combien à peu près cette année?
C'est difficile à dire parce que certaines femmes sont arrivées, par exemple, hier soir. D'autres sont venues tout au début. Pour le week-end, mais je crois 100, 150, je ne suis pas très sûre. Hein.
C'est émerveillé que toutes les Anglaises, il n'y a pas une femme qui ne sait pas jouer un instrument. J'étais choquée. Vraiment, elles prennent l'instrument et n'importe quel instrument et c'est parti. Alors c'est vraiment génial et c'est vraiment la joie aussi d'écouter. C'est une autre façon parce que ce n'est pas quelque chose, une compétition. C'est faire la musique et to enjoy. Et ben, ça.
Il y a vraiment de la place pour tout le monde là. Par exemple, si tu es très timide avec ta guitare ou ton instrument ou ta voix, tu peux aller à la cabine. Et là, c'est le coin pour les femmes timides. Hein? Non, log cabine. Log cabine.
Oui, c'est ça. Donc, une des femmes, je crois que c'est Darlene, hein, qui dit que. Elle se plante régulièrement quand elle fait de la musique, c'est comme moi. Et donc elle s'est dit, je veux organiser un coin où les femmes qui n'osent pas trop se produire en public vont pouvoir jouer ensemble. Et c'est vrai que ça c'est vraiment chouette parce que des femmes qui ne se connaissent pas se réunissent et discutent un peu et commencent à faire de la musique ensemble. C'est vraiment une manière de se rencontrer qui est tout à fait chouette et sympathique. Alors il y a eu un atelier aussi cette année. Le chant pour les femmes qui étaient terrifiées à l'idée de chanter, c'était vraiment étonnant aussi ça. Enfin bon, voilà.
Et puis il y a eu aussi l'opportunité de faire partie d'un groupe de rock and roll.
Ouais.
Et ça, tu pouvais, si tu avais jamais, moi j'ai fait la basse, j'avais jamais touché une basse, c'était super. Ouais, c'était vraiment excitant. Ouais.
Merci de savoir qu'il y a de l'espace aussi pour les, comment on appelle, les habiles.
Les femmes qui ont un handicap.
Oui, ça c'est bien aussi. C'est ouvert à toutes. Voilà.
Oui. Toutes celles qui sont prêtes à vivre un peu dans l'humidité et le froid pendant quelques jours. Mais le jeu en vaut la chandelle. Et je vous remercie beaucoup toutes les deux. C'est vraiment un bon morceau d'atmosphère du camp et je suis sûre que les auditrices bruxelloises apprécieront. C'était donc Anastasia et Pascal. Salut.
Oui, oui, oui.
Goodbye.
Voilà, donc je l'ai pas coupé parce que, comme je le dis, je trouve que c'est un bon morceau d'ambiance. Et j'aime bien ce qu'elle raconte aussi. Je trouve que elles abordent un tas de sujets Intéressant. Vous avez remarqué que je pose toujours les mêmes questions. Je n'arrête pas de le dire. On ne s'improvise pas intervieweuse. Et pour moi, le chemin est encore long et semé d'embûches. Je promets que je ferai mieux la prochaine fois. On va terminer évidemment avec un morceau de musique. Et c'est un morceau du soir, parce que donc la journée, il se passe plein d'ateliers, et le soir, on va dans le Big Top, la grande tente, et les artistes professionnels, semi-professionnels, peu importe, retenus par le comité organisateur, se présentent, et donc le soir, on n'est pas bêtement assis au coin du feu, non, on est dans la tente, en train de gueuler parce qu'on voit des choses excitantes sur scène, et de chanter, etc., etc. J'ai retenu pour vous un extrait de percussion, un groupe de percussion londonien qui s'appelle Cascada, on dirait en français. Très très chouette. De nouveau, j'ai pas coupé, c'est-à-dire que j'ai sélectionné un morceau de ce que j'avais enregistré. De nouveau, pour vous donner un peu l'ambiance, en fait, ça commence avec un petit morceau léger, un peu flûte. C'est quand elles sont arrivées, elles ont traversé la salle avec leurs instruments, puis elles sont montées sur scène. Elles arrivent sur scène, on entend, il y a Pauline qui dit « I hope you like drumming ». J'espère que vous aimez les percussions, ça fait bien rigoler tout le monde. Et puis, il y en a une autre, Kirby, qui dit « J'espère que vous aimez la musique qui fait du bruit et qui est sauvage ». Évidemment, tout le monde dit oui, applaudit. Et puis alors, Kirby fait un jeu de mots très amusant qu'il faut que je vous explique avant que vous ne l'entendiez. Elle dit « We have to put our strap-ons on », je crois, elle dit. Alors ça... Pour celles qui ne connaissent pas l'expression, quelques explications. Ce qu'elles veulent dire par là, c'est qu'elles doivent mettre leur djembé. Si vous avez déjà vu, vous avez certainement déjà vu des joueurs et joueuses de djembé. On a une espèce de ceinture, de je sais pas, d'écharpe autour du cou, et le djembé pend entre les jambes. Alors elle parle d'un strap-on, donc ça veut dire, je sais pas ce que ça veut dire en anglais, c'est quelque chose qu'on met sur soi, mais ça veut dire surtout un strap-on, c'est un truc, c'est l'espèce d'accessoire cuir, ceinture, machin, que les filles qui veulent mettre à godemiché mettre. Et donc, évidemment, c'est un jeu de mots là-dessus, et ça fait bien rigoler tout le monde aussi. Et puis alors, elles démarrent dans leur percussion, et vous allez l'entendre, c'est pas mal du tout, c'est même très chouette pour moi, c'était le meilleur concert du festival. On écoute Cascade.
Hold on.
On va se quitter là-dessus. Vous avez entendu aussi qu'il va falloir que j'apprenne à tenir un micro. Je vais devoir apprendre tellement de choses. Écrivez-nous sur safoldire@bust.com. Donc safoldire en un mot sans accent, safoldire@bust.com, ou bien Radio Air Libre, 21 rue Marconi, 1190 Bruxelles. Vous pouvez aussi nous téléphoner, mais pour ce soir, ça doit aller très vite parce que la soirée est finie et donc je ne vais pas m'éterniser ici. 02 344 58 55. Et on se retrouve la semaine prochaine à 20h pour Ça faut le dire. Salut, à la semaine prochaine!